Bonjour tout le monde. Bonjour à ceux qui sont dans la salle avec moi. Je suis heureux de voir des visages avec moi ce matin. Bonjour à tous ceux qui sont derrière l'écran depuis chez eux. Je suis aussi très content que vous soyez là ce matin avec nous pour ce temps de culte. Alors, ce matin, on va parler de vivre en famille. Nous sommes une famille, ce lien de fraternité. Ce matin, j'ai moi-même été interpellé dans cette idée de fraternité et de famille sur qu'est-ce qu'une famille. Alors, je ne sais pas quelle est la vision que vous avez de la famille, quel est votre vécu en famille. Moi, j'ai un vécu de famille très particulier. Donc, finalement, la vraie question que je me suis posée, une des premières questions, je me suis dit, mais alors, qui est ma famille? Mais plus dans le sens plus global. Qui est donc mon prochain avec qui je vais être en relation? Et de ce fait, j'ai pris ce matin le l'axe de chercher à savoir qui est mon prochain bibliquement dans cette idée de vivre la fraternité. Comme David nous l'a dit la semaine dernière, c'est que la fraternité, c'est quelque chose qu'on voit tout au long de la Bible, depuis le début dans le lien familial. Après, on le voit que ça ne fonctionne pas forcément tout simple, tout naturellement, que ce soit dans la famille, dans la patrie, dans le pays ou même dans l'Église. Après coup, c'est quelque chose qu'on veut vivre intentionnellement. Donc ce matin, j'ai décidé de vous prendre avec vous Luc 10, les versets 25 à 37, pour pouvoir parler de la fraternité, de pouvoir parler de qui est avec qui je peux vivre cette fraternité. Alors pour ceux qui sont nés entre deux pages de Bible, peut-être que vous voyez déjà quel texte je prends. Parce que c'est un des passages les plus connus de Luc, si ce n'est de la Bible, il me semble, c'est la parabole du Samaritain, du bon Samaritain. Je pense que, je vais essayer de regarder les gens dans la salle, je pense qu'on l'a déjà tous, peut-être, j'imagine, déjà entendu une fois, que ce soit à l'église ou même moi, je l'ai déjà entendu citer dans des films ou dans des séries non chrétiennes, on vient citer la parabole du bon Samaritain. Donc ce matin, je vais vous lire le texte, mais avant ça, je vous invite, à vous qui êtes dans la salle, à vous qui êtes chez vous, à prendre quelques instants pour simplement déposer ce que vous savez déjà de cette parabole, ce que vous avez l'impression que vous avez déjà entendu, ce qui a déjà été dit, ce que vous vous rappelez, ce que vous aimez de cette parabole ou ce que vous n'aimez pas de cette parabole. Je vous invite simplement à déposer ça et à venir avec moi dans la Bible, devant ce texte, et à se laisser interpeller par le texte. Donc, j'invite les personnes qui sont là dans la salle peut-être à juste fermer les yeux, et je vais lire le texte simplement, et d'écouter le texte. Je ne vais pas afficher les paroles, c'est intentionnel, qu'on puisse juste entendre ce texte. Alors, à la maison aussi, si vous pouvez fermer les yeux, fermez les yeux. Hein, si par contre, vous êtes en train de préparer à manger en même temps que vous écoutez, ne fermez pas les yeux, ou si les enfants sont là, ne fermez pas les yeux. Donc voilà, si c'est possible chez vous, faites-le. Je lis le texte. Donc, Luc 10, versets 25 à 37. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Que comprends-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui par hasard descendait par le même chemin vit cet homme et passa à distance. De même aussi, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, prends soin de lui et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands ? Celui qui agit avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit, va, agis de la même manière, toi aussi. Voilà. Donc c'est le texte sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête ce matin. Je trouve ce passage tellement intéressant. Quand je l'ai relu, alors je connais l'histoire de manière générale, globale, mais quand on s'arrête sur chaque passage, il y a une richesse qui est incroyable. Donc, je vais reprendre avec vous la première partie, c'est les versets, Luc 10, les versets 25 à 29. On voit un professeur de loi arriver pour éprouver Jésus. Donc à l'époque, c'était normal d'éprouver un rabbin, un maître de loi, quand il parle, c'est normal, on va tester un peu sa connaissance, surtout Jésus qui vient dire des choses que personne n'a entendues, on va aller le chercher un petit peu, on va essayer de chercher à comprendre d'où il sort tout ça. Et il va lui poser la question, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? Jusque-là, c'est du classique, on va dire. C'est la question que chaque rabbin avait le droit d'entendre. Chaque rabbin s'est positionné, ok, comment on doit faire ? Quelle est l'œuvre ? Quelle est l'œuvre que je dois faire, accomplir pour atteindre cette vie éternelle ? C'est quoi ? Donc là, on est dans quelque chose où le rabbin pose la question que n'importe quel autre enseignant de la loi a entendue. Jésus répond de manière... Jésus, en étant toujours très pédagogue, il va dire, mais alors, qu'est-ce que toi, tu penses ? Et là, je trouve déjà intéressant, il va citer ce verset qui résume tout, ce verset du double amour, aimer Dieu et aimer son prochain, que Jésus lui-même va reprendre en disant que c'est effectivement le commandement le plus grand, ce qui résume toute la loi. Et jusque-là, ils sont d'accord, en fait. Tout va bien. Et presque perturbé, le professeur de loi, perturbé par sa réponse, en fait, de Jésus, parce que si la réponse de « qu'est-ce que je dois faire pour mériter la vie éternelle, c'est de aimer », si je l'ai posé, c'est que je ne l'ai pas encore fait. Et en fait, le professeur de la loi se retrouve un peu coincé parce qu'il voulait éprouver, puis il se dit mince, je sais pas, qu'est-ce que je fais. Il va poser la deuxième grande question de n'importe quel rabbin, c'est mais qui est mon prochain alors? Parce que dans l'Israël antique, mon prochain, ils s'étaient pratiquement tous mis d'accord sur l'idée de dire que mon prochain, c'est la personne, c'est le juif avec moi en Israël. L'étranger n'est pas mon prochain. On est ensemble, lui c'est mon prochain. Et plusieurs rabbins sont même allés encore plus loin en disant en fait non, mon prochain c'est celui qui fait partie de la même patrie que moi, le même cercle social que moi, ou juste mon prochain c'est celui qui fait partie de la même famille que moi. En posant cette question, le maître de loi va dire voilà Jésus, maintenant j'ai besoin, positionne-toi, qui est mon prochain ? Et Jésus va répondre par la parabole du Samaritain. Ce que je trouve très intéressant dans cette parabole, alors il y a beaucoup de choses à dire, je vais essayer de pas partir dans tous les sens, ce qui est assez intéressant, c'est que donc, on voit trois personnages, un prêtre, un lévite et un samaritain. Le prêtre et le lévite repartent de Jérusalem et donc ça veut sûrement dire qu'ils ont fait un service au temple. Et donc ils s'éloignent, ils ne s'approchent pas de l'homme à moitié mort, parce qu'en fait, s'ils s'approchent de l'homme à moitié mort, selon les lois à l'époque, ils se retrouveraient en état d'impureté, alors qu'en sortant du temple, ils se retrouvent purs. Donc on ne peut pas s'approcher d'un homme blessé à moitié mort, où sûrement le sang est en train d'être partout. Je ne peux pas m'approcher de lui, sinon, face à Dieu, je serais plus juste. Et là, c'est intéressant, puisque le lévite et le sacrificateur, le prêtre, va décider que leur amour pour Dieu fait qu'ils ne peuvent pas aimer leur prochain, ne peuvent pas aller vers le prochain. Et quelque part, on pourrait s'attendre du prêtre et du lévite que c'est un prêtre et un lévite, forcément. C'est quand même la top classe en Israël. En plus, ils viennent de sortir du temple, de la présence de Dieu. On pourrait s'attendre d'eux qu'ils fassent quelque chose. Ou au moins qu'il signale, je ne sais pas, non. C'est marqué qu'il passa à distance. Et je trouve très fort ce côté de passer à distance, cette mise à distance. Et aujourd'hui, moi à leur place, moi dans cette situation, ça me fait mal des fois d'imaginer ça, mais je pense que je serais très vite à mettre à la place du lévite ou du prêtre, à être dans ma journée, dans mes activités, dans mes choses à faire, et je mets de la distance. Je mets de la distance dans ce qui arrive à l'autre. Je deviens presque des fois même à être indifférent, mais à mettre de la distance, à dire oui, c'est difficile, mais je laisse une certaine distance. Et je passe à côté, et de toute manière, voilà, j'ai pas eu le temps, j'ai fait un service quand même où je dois me reposer, j'ai autre chose à faire, mince, je suis fatigué, donc je mets de la distance avec lui. Et Jésus arrive au point, verset 33, où il va aborder le sujet du Samaritain. Alors là, Jésus, on connaît un Jésus qui peut être rempli d'amour, qui va rejoindre les gens, mais en prenant le rôle, en mettant le Samaritain dans le rôle du héros, Jésus vient provoquer le maître de loi. Jésus vient le provoquer parce que le Samaritain, pour un juif, c'est le mauvais croyant. C'est, chez les juifs, il valait mieux fréquenter un païen, donc un non-juif, qu'un Samaritain. Donc, que ce soit un Samaritain qui va venir le héros de l'histoire, enfin, celui qui va faire preuve de compassion, Jésus est en train de provoquer le maître de loi. Donc le Samaritain arrive, et lorsqu'il le vit, il fut rempli de compassion, et il s'approcha. C'est des verbes, je les trouve hyper intéressants, comparés aux deux autres qui ont gardé une distance. Le Samaritain est rempli de compassion, et il s'approche. Il s'approche du blessé. Après, comme le verset le dit, il va le soigner, il va le mettre sur sa monture, il sort deux pièces d'argent, qui est quand même synonyme de deux jours de salaire qu'on gagnait à l'époque, et il va le donner pour qu'on puisse le prendre soin. Quand Jésus raconte ça, il est en train d'enfoncer le clou. Hein, il est en train de dire qu'il n'a pas juste pris soin, il a donné de son essentiel. Le Samaritain, il était en voyage, donc l'huile et le vin, c'est des éléments qui font partie de ceux qui voyagent, on en a, mais donc je donne de mon essentiel, le Samaritain donne tout. Pour le juif blessé à terre qui n'aime pas le Samaritain. C'est vraiment très intéressant. Et donc, on finit l'histoire, je vais très vite sur l'histoire, parce que j'aimerais m'arrêter sur la question finalement que Jésus va poser au maître de loi après avoir raconté cette histoire. Il va lui poser la question, à ton avis, qui a été le prochain de celui qui est tombé ? Alors moi, quand j'ai eu la question, il faut recomprendre la parabole, parce que lorsque Jésus raconte une parabole, il veut toujours amener son interlocuteur à penser d'une nouvelle manière. Des fois, il veut expliquer des choses compliquées de manière facile, et souvent, en faisant ça, il veut amener celui qui entend la parabole à une nouvelle manière de penser. Et dans les paraboles, à chaque fois, on a un point de vue. On va prendre le point de vue de quelqu'un et l'histoire va se dérouler en fonction de ce point de vue-là. Alors, la tradition, les habitudes et même la façon d'appeler ce passage, le passage de la parabole du bon samaritain, on met l'emphase sur le fait que on a la vision du bon samaritain. On est en fonction du bon samaritain. Je crois que cette approche n'est pas celle que Jésus est en train de mettre en place. Puisque lorsqu'on commence la parabole, il y a deux éléments. On commence la parabole, Jésus commence la parabole en disant « Un homme qui descendait de Jérusalem se fait agresser. » Et en fait, cet homme-là, c'est lui le héros principal. C'est lui, c'est de son point de vue-là qu'on est en train de voir cette parabole. On est à la place de l'homme blessé, par terre, qui voit le lévite, qui voit le prêtre, qui ne sait pas pourquoi il ne s'arrête pas. Et ce n'est pas écrit dans la parabole pourquoi il ne s'arrête pas. Il les voit simplement qu'il ne s'arrête pas, qu'il continue. Il voit le samaritain, on est vraiment à la place de l'homme blessé. Et Jésus est en train de dire au maître de loi, qui lui a posé la question « Qui est mon prochain ?» Pour répondre à la question, le maître de loi s'attendait sûrement à dire « c'est ta famille et ta patrie » ou « c'est ta patrie et le pays » ou « c'est le pays et ceux qui aiment Israël ». C'est « voilà la limite de qui est mon prochain ». Et c'est sûrement ce que Ce que le maître de loi attend, c'est de dire bah, où est la limite de mon prochain? Jusqu'à où mon prochain, qui je dois aimer? Où se trouve cette limite? C'est ça la question du maître de loi. Et Jésus, en racontant cette parabole, en disant bah, regarde, tu es l'homme blessé. Maintenant, dis-moi, qui t'aurait voulu qu'il soit ton prochain? Bah, celui qui agit avec bonté envers moi. Et en fait, en répondant ça, il est en train de dire, mais il n'y a pas de limite au prochain. En fait, la limite du prochain, c'est toi qui la mets. C'est toi qui décides qui est ton prochain. Comme le Samaritain qui ne s'est pas laissé arrêter par les limites sociales de l'époque, les barrières ou les préjugés, il ne s'est pas laissé arrêter par ça. Le Samaritain a décidé lui-même de dire, bah, il est mon prochain, je peux l'aider. Et finalement, il va poser la question de dire, bah, voilà, si tu sais que si tu aurais voulu qu'on agisse avec bonté avec toi, bah, va et agis avec bonté vers celui que tu crois, vers celui qui a besoin de toi. Et si on s'arrête sur cette parabole, le Samaritain n'était pas en train de chercher qui il pouvait aider. Il a trouvé quelqu'un sur son chemin qui avait besoin d'aide. Et il s'est dit, je peux l'aider. Et avant de partir dans des choses à faire, avant de se dire, bah, aider quelqu'un, c'est lui donner 2 jours de salaire, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Aider quelqu'un, c'est s'approcher de lui et se laisser remplir de compassion pour lui. C'est ce que le Samaritain fait. Et en étant rempli de compassion pour son prochain, en étant rempli et en étant proche de lui, il vit la fraternité, il vit cette proximité avec son prochain. Parce qu'il est là, on est ensemble. Il a rejoint l'autre dans ce qu'il était en train de vivre. Et je crois que juste sa simple présence à côté de lui aurait suffi. Parce qu'il ne serait plus tout seul. Alors là, voilà, il pouvait l'aider, il y avait une monture, il avait tout ce qu'il avait. Il l'a pris parce qu'il avait la capacité de le prendre. Donc ce matin, pour résumer un peu tout ça, j'ai essayé de faire une phrase. J'aime bien faire ça, de condenser ce que j'ai à dire en une seule phrase. Et donc ce que j'aimerais nous laisser ce matin, c'est je suis appelé à faire une différence dans la vie de mon prochain. Et dans ce sens-là, c'est que comme le Samaritain est appelé à faire une différence, a fait une différence dans la vie de l'homme blessé, nous sommes appelés à faire une différence dans la vie du prochain. Alors, qui est mon prochain? On a répondu à la question ce matin. C'est celui qui a besoin, que je considère comme mon prochain, qui est sur mon chemin. Et appelé à faire... Alors, au début, je vais le marquer, je suis appelé à être une différence dans la vie de mon prochain, parce que ce mot « faire », je n'ai pas envie qu'on aille directement dans l'idée de « il faut faire quelque chose pour être une différence ». Je crois que, fondamentalement, énormément de gens, en étant simplement à côté, on est une différence. Et lorsque je prépare mes prédications, moi, la semaine qui vient ou le week-end qui vient, généralement le vendredi ou le samedi, je demande à ma femme, à Lison, qu'elle puisse juste être à côté de moi. Et puis je lui explique ma prédication et je lui dis, bah voilà, qu'est-ce que t'en penses? Puis elle me dit, oui, bah j'aime bien, j'aime pas bien. Enfin, ça, je trouve intéressant. Puis à chaque fois qu'on a terminé ce temps-là, je lui dis, ok, bah merci beaucoup, en fait, ça m'a beaucoup aidé. Puis elle me dit, ouais, mais moi, j'ai pas du tout l'impression de t'avoir aidé, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Je dis, mais c'est justement ça, c'est ta présence qui était là à côté de moi qui m'a aidé. C'est le fait d'avoir été cet écho qui m'a beaucoup aidé. Et je pense qu'on est appelé à faire une différence simplement en étant dans la vie des autres et en restant et en gardant ce lien de fraternité les uns avec les autres. Alors, je vais simplement terminer par prier. Et pendant que je prie, j'invite simplement l'équipe Louange à se remettre en place, qui pourra simplement prendre le chant suivant lorsque j'aurai fini de prier. Et Père, je te remercie pour ce lien qu'on peut vivre les uns avec les autres. Je te remercie pour cette proximité qu'on peut avoir les uns avec les autres. Je te prie, Papa, qu'on puisse oser s'approcher les uns des autres et être remplis de compassion les uns pour les autres. Qu'on puisse aller vers l'autre et vivre ensemble la vie. Faire cette vie ensemble et pouvoir être une différence dans la vie de mon prochain. Je te remercie Seigneur pour pour qui nous sommes, pour qui je peux être et pour qui on est. Parce que cet être fait toute la différence dans la vie de mon prochain. Donc merci Père pour ta présence, merci pour ce lien fraternel qui peut exister au milieu de ta famille. Amen.